La main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric. Bonjour Patricia. Bonjour à tous.
Ah, c'est mon cher Eric et Patricia tout court. Bonjour mon cher Alain.
Tout de suite.
Ah, les papas, les tutus, les palétuviers roses. Est-il vraiment possible, Alain, de s'aimer sous les palétuviers?
C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, à entendre la chanson, oui, et pourtant, voyez-vous, la chose me paraît bien difficile quand on sait à quoi ressemble cet arbre. L'occasion peut-être de décrire, eh bien, un végétal connu de nom, mais peu connu d'apparence. Alors, description déjà, les palétuviers poussent dans les régions humides des régions chaudes et produisent de grandes racines qui s'enfoncent dans la terre imbibée, là où s'exerce le mouvement des marées. Ils sont donc capables de croître en bord de rivières et de mers et d'accepter de vivre dans des sols salés, ce qui est très rare pour les arbres.
Mais les palétuviers, les racines dans l'eau, c'est ce qu'on appelle la mangrove.
Et oui, alors à savoir, parce que j'ai pris le Larousse pour être précis, une formation forestière littorale tropicale à base de palétuviers qui colonisent les dépôts vaseux d'estuaires ou de lagunes.
Et ces arbres jouent un rôle important, très important pour l'environnement. Hein.
Considérable, ils sont les seuls à contenir vraiment l'avancée de la mer dans ces régions et à lutter contre l'érosion des terres. Ils brisent les vagues qui pourraient endommager les berges et abritent une flore et une faune parfois unique au monde.
Est-ce qu'on peut facilement décrire les feuilles, les fleurs des palétuviers?
Parce qu'on croit la chanson, les fleurs sont roses, et ben c'est pas aussi facile. Ouais. Alors je pourrais effectivement décrire les feuilles et les feuilles, mais cela prendrait beaucoup beaucoup de temps, car le palétuvier ne désigne pas un arbre en particulier, mais une sorte d'arbre adapté à un sol et pouvant pousser les pieds dans l'eau. Il existe ainsi le palétuvier gris, noir, jaune, montagne, gris montagne, blanc ou encore le palétuvier grand bois. Ils se ressemblent, mais ils ne sont ni de la même essence, ni même de la même famille.
Et cela dit, tous ces palétuviers ont en commun leur reproduction.
C'est extraordinaire cette adaptation des végétaux dans leur environnement. En langage botanique, on parle de viviparité, alors j'explique. Pour éviter que les graines s'envolent et tombent dans l'eau, donc ne puissent germer, eh bien celles-ci germent directement dans un fruit qui reste accroché sur la branche. Une fois maturité, la graine est devenue une plantule, donc une petite plante, et elle tombe directement dans la vase et s'enracine immédiatement. Je trouve ça extraordinaire comment les plantes arrivent à s'adapter.
Les palétuviers roses, mais on cherchera la chanson.
Eh ben non, mais Patrice et Martin
Pauline
la connaissent
Carton.
Par cœur.
Oui, mais je vais pas vous la chanter à l'antenne. Non,
plaisir.
Non, il a déjà plu beaucoup. Il va pleuvoir encore plus si je chante.
Vous avez une très jolie voix.
Vous avez le choix entre la version Pauline Carton ou la version Marie Laforêt aussi.
Tout à fait. Oui. Qui l'a chanté merveilleux. Jacques Martin également l'a chanté.
C'est fort probable.
Moi, je choisis
Pauline Carton. Chanson de 1934.
Vos conseils à présent, Alain Baraton, aux auditrices et auditeurs de France Inter. Yves, il a visité la Nouvelle-Zélande, Yves, et il a découvert sur l'île Sud le Notophagus solandri. Alors, il cherche à savoir si cet arbre a été aussi introduit en Europe et si on peut s'en procurer et en planter en Normandie. Le Notophagus solandri.
Alors, c'est un arbre qu'on appelle également le hêtre noir. Les Notophagus, pardonnez-moi, en général, sont des arbres à feuilles caduques ou persistants qui ressemblent vraiment bien au hêtre, d'où le nom d'ailleurs de hêtre noir. Savoir s'il peut y en avoir en Normandie, je ne sais pas. Peut-il y en avoir? Oui, car il y en a beaucoup en Angleterre. Les grands parcs botaniques comme le parc de Kew's près de Londres en possèdent sur leur territoire, j'en ai vu. Donc oui, l'arbre introduit en Europe en 1871 peut parfaitement convenir au climat de Normandie.
Catherine a une pelouse qui, malgré le changement de terre et sa nouvelle plantation, cette pelouse persiste à avoir des zones jaunes et d'autres plus vertes. La parcelle est équipée d'un arrosage automatique, précise Catherine. Est-ce que vous avez une idée?
Non. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est stopper l'arrosage automatique. Voir quel est le problème. Souvent, quand il y a des problèmes de jaunissement du sol qui ne viennent ni de la terre, elle a été changée, ni de l'eau, parce qu'apparemment, c'est arrosé régulièrement, ça vient du sous-sol immédiat. Ce qui veut dire que les racines butent sur un sous-sol particulier. Arrêtez d'arroser. Logiquement, le jaunissement devrait s'accentuer, le verdissement aussi. Et là, on pourra davantage centrer d'où viennent les problèmes et réagir. Mais comme ça, on ne peut pas deviner.
Marius de Vanves a un gland qui a poussé dans les plantes vivaces. Et je l'ai laissé pousser. Il fait maintenant l'arbre 4,50 m de hauteur. Le problème, c'est qu'il est à 2 mètres de la maison. Et donc, le maçon a dit à Marius que les racines vont endommager la future terrasse, peut-être même la maison.
La terrasse, on s'en fiche. La maison, c'est un peu plus gênant.
Pourquoi on s'en fiche de la terrasse?
Parce que ça se refait une terrasse, on va pas couper un arbre.
Bah, vous me direz, je vous enverrai le chèque.
Mais on ne va pas couper un arbre qui est prévu pour vivre 1000 ans pour un problème de terrasse. Mais non, mais allons. Mais...
Alors allons donc.
Donc,
pour la maison.
Le problème, c'est que quand on a un arbre de cette dimension à moins de 2 mètres, ça peut créer des problèmes. C'est peut-être l'occasion de déplacer maintenant le chêne, quand je dis maintenant, d'attendre l'automne bien sûr, mais de le transplanter dans un endroit où il pourra mieux s'épanouir. Mais effectivement, avoir un chêne avec un devenir réel à 2 mètres d'une façade, c'est quand même compliqué.
Denis déplore qu'un véhicule avec des chenilles est venu raser une forêt de 3 hectares en 3 jours. Il a laissé le sol labouré. J'ai pu sauver un orme d'une trentaine d'années, explique Denis. Est-ce que cet arbre, l'orme, qui est maintenant isolé, va pouvoir se reproduire?
Non, alors je vous explique en deux mots. Déjà, si cet arbre résiste à la graphiose, une terrible maladie, c'est miraculeux. Mais quand un arbre a vécu dans un bosquet boisé et qu'on a détruit autour de lui tous les végétaux, il va se prendre le soleil, il est condamné à mort.
Et c'est fini pour l'orme. Un dernier conseil pour le dimanche?
Magnifique. Connaître et protéger la petite faune urbaine, c'est signé par le colonel Moutarde. Eh bien oui, il existe. C'est publié chez Marabout. Hein. C'est une bande dessinée qui permet de connaître toutes les petites bestioles, toute la faune dans les villes. C'est drôlement joli, c'est drôlement bien dessiné, c'est très agréable et je vous l'offre, Madame Martin.
Et ça coûte combien?
Ça coûte très exactement 12 euros.
Merci Alain Baraton, le jardinier de Versailles. Sur France Inter, il est 8h10.